lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Bonjour, je vais vous parler de deux livres. Le premier est celui de Jean-Paul Kaufmann, intitulé « La maison du retour », paru chez Nil Éditions, et qui a reçu récemment le prix François Mauriac, décerné par la région Aquitaine. En tant que président du jury, j'ai remis ce prix à Jean-Paul Kaufmann. Souvenez-vous, en 1985, des journalistes, dont Jean-Paul Kaufmann, alors journaliste à l'événement du jeudi, ont été pris en otage au Liban. Il y avait également Michel Seurat, qui est mort en captivité, Marcel Carton. Et tout ça a duré 3 ans. Ils n'ont été libérés qu'au bout de 3 ans. C'est une des premières manifestations de cette nouvelle forme de violence, de terrorisme, qui est la prise d'otages ultra-médiatisée. Et on se souvient des appels déchirants de Jean-Paul Kaufmann pour sa libération. Dans les mois qui ont suivi sa libération, Jean-Paul Kaufmann, revenu en France, s'est mis à la recherche d'une maison pour se reconstruire, pour ressusciter, dit-il lui-même. Et il a fini par trouver cette maison dans une région proche d'une partie d'entre elles qui lui était familière, le vignoble bordelais. Une maison dans la Lande. C'était donc à la fin de 1988. Et il a attendu 20 ans pour parler de la prise en charge de cette maison, de son apprivoisement et de la manière dont il avait vécu 20 ans avant cette horrible épreuve de l'enfermement. Cela d'ailleurs me fait penser à une autre attitude assez semblable, qui est celle de beaucoup de déportés, qui pendant de longues années n'ont pas osé, voulu ou pu même parler de leur épreuve. Georges Samprun l'a admirablement indiqué. Et on a vraiment le sentiment que ces épreuves sont tellement dures qu'il faut mettre par-dessus 20 années de vie normale pour pouvoir, de manière relativement froide, en parler, c'est extrêmement fort. Alors, ce livre est d'autant plus intéressant que ça n'est pas un récit d'une captivité avec ce pourrait avoir de doloriste, mais ce sont des allusions, des références à un désespoir, à une souffrance, à un complet dénouement et l'interminable et incertaine attente d'une issue et la difficile reconquête d'une liberté enfin rendue. Et à cet égard, cette maison dans la lande, dans un aérial, comme on dit, une clairière, que Jean-Paul Kaufmann va restaurer, aménager, dont il va essayer de comprendre la logique propre, est un récit extraordinairement attachant, plein de poésie. Et encore une fois, il y a toujours ce balancement entre les sensations actuelles et les réminiscences d'un passé douloureux, la redécouverte des sens. Le fait, par exemple, qu'il apprécie particulièrement, après avoir été si longtemps enfermé, d'avoir la démesure de ce paysage landais jamais borné. Les lumières, les bruits, les silences, les odeurs, les arbres, tout ça, il le regarde avec un œil neuf. Alors nous avons tous plus ou moins l'expérience d'une maison restaurée que nous avons pris en charge, dont nous avons hérité, et nous pouvons retrouver un certain nombre d'impressions que nous avons pu avoir, découvrir la logique d'une maison, se faire accepter par elle, car une maison peut vous rejeter, prendre en charge sa mémoire. Donc on se trouve sur un terrain assez familier, mais en même temps, avec cette grande différence de l'épreuve. Kaufmann n'hésite pas à se mettre à nu, à se confier dans ce livre. Nous avons en Aquitaine, depuis Montaigne, l'habitude de ces auteurs qui, dans tous les sens du mot, s'exposent. Et il le fait fort bien, de manière très pudique, très sereine et en même temps très touchante. Et puis il y a une autre chose qui est, pour les Aquitains, dont je suis très important, c'est le sens de la maison. On ne remarque pas suffisamment que beaucoup d'écrivains sont attachés à une région, Balzac à la Touraine, Barrès à la Lorraine, Flaubert et Maupassant à la Normandie, Pagnol à la Provence. Mais en Aquitaine, nous avons ceux que nous appelons les trois M, qui sont Montaigne, Montesquieu et Mauriac, qui ont laissé non seulement une œuvre, mais une maison. C'est Saint-Michel pour Montaigne, c'est La Brède pour Montesquieu, c'est Malaga pour François Mauriac, et on ne peut pas comprendre leur œuvre si on n'a pas la sensation physique de ces demeures qu'ils ont habitées, et à cet égard, Kaufmann, bien que n'étant pas aquitain, se rattache à cette grande tradition. Il y a aussi une chose qui est frappante dans ce livre, c'est, pour cet homme qui a été longtemps enfermé, contraint de vivre quelque part, le refus de l'enracinement. Il répète à plusieurs reprises, par rapport à cette région landaise, « Je ne suis pas d'ici, je suis apatride, ce lieu a été adopté par défaut, etc. » Chaque séjour apparaît pour lui comme un acte de liberté, d'une liberté incessamment renouvelée. C'est une des choses qui rend ce livre particulièrement émouvant dans son style, avec également quelque chose qui est très touchant. Quand il était en captivité, tous les livres qui lui tombaient sous la main ou qu'on voulait bien lui prêter, et ça va de la Bible à la collection Harlequin, ont été un élément qui lui ont littéralement sauvé la vie. Et maintenant qu'il est libre, il est beaucoup moins attaché aux livres, il a même du mal à reprendre cette fidélité à la lecture. Il préfère planter des arbres, mais heureusement, il a écrit un certain nombre de livres, souvent sur des problèmes d'enfermement, notamment sur Sainte-Hélène, le Sainte-Hélène de Napoléon. Mais nous ne le laissons pas quitte et nous espérons qu'il écrira d'autres livres. Il a d'ailleurs beaucoup écrit sur les vins de Bordeaux, ayant fondé la revue L'Amateur du vin de Bordeaux. Et il a des propos extrêmement savoureux qui vous mettent, sinon le vin, l'eau du moins le vin à la bouche. Voilà ce que je voulais dire pour le prix François Mauriac, qui a été décidé à Malaga et remis à la région, au siège de la région Aquitaine. La deuxième partie de cette émission, je la consacrerai assez souvent à des relectures, mais cette fois-ci, je voudrais parler d'un livre qui vient de sortir, dans la sympathique et excitante édition Café Voltaire chez Flammarion. C'est un livre de Jean Clair, qui s'appelle « Malaise dans les musées », qui vient de paraître. Alors Jean Clair, pour l'état civil de Gérard Régnier, est un brillant conservateur de musées. Son dernier poste avant sa retraite a été de diriger le musée Picasso à Paris. Et il a également été le responsable d'une grande exposition qui a beaucoup fait parler d'elle, qui s'appelait Mélancolie, au Galerie nationale du Grand Palais. Mélancolique, il est même plus que mélancolique. Un autre livre qu'il a publié récemment chez Gallimard s'appelle « Journal atrabilaire ». Il a un regard désenchanté et même amer sur le monde actuel, sur la création artistique, sur l'art d'aujourd'hui, et aussi sur l'évolution du monde des musées. Alors ce livre est un livre polémique, on peut même dire que c'est un pamphlet, plein d'outrances. Personnellement, je suis loin d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais si je veux vous en parler, c'est que c'est une lecture extrêmement tonique, parce que, même si encore une fois on n'est pas d'accord avec lui, les questions qu'il pose sont de vraies questions. Ce qui le motive essentiellement, c'est la fameuse affaire d'Abu Dhabi, où le Louvre va, à la demande des autorités locales, installer un musée à vocation universelle. Ce n'est pas un musée d'art islamique, c'est un musée à vocation universelle. Et le Louvre va d'ailleurs prêter, pour une durée assez longue, beaucoup plus longue qu'une exposition habituelle, un certain nombre d'œuvres, moyennant finances. Mais, plus encore, la marque Louvre sera pour 20 ou 30 ans donnée à cet établissement. Et le Louvre recevra en contrepartie des sommes tout à fait importantes qu'il pourra consacrer à des restaurations, à des acquisitions et à des aménagements. Alors ça met Jean Clair, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres conservateurs, hors de lui. L'idée de la marque commerciale accolée à une grande institution culturelle le fait frémir, il accuse les musées de mercantilisme, de devenir des lieux ouverts à tout vent, etc. Alors, c'est à la fois agaçant, en tout cas de mon point de vue, car les musées ne sont pas faits pour la délectation des conservateurs, que je sache. Ils sont le patrimoine de la nation. Il y a une mission de conservation qui est tout à fait importante et qui, dans les canons internationaux, est la première, mais ils sont aussi ouverts au public. Alors, c'est vrai que quand on va en face de l'Institut au Louvre, on a souvent l'impression d'être dans le métro à 6h du soir. Et le problème de l'accès au musée, certains musées sont déserts et d'autres sont, je dirais, trop pleins. Donc, la gestion des musées pose des problèmes, que l'accès du public soit à la fois une nécessité absolue et une contrainte, qu'il faille raisonner en fonction de ce qu'est la mondialisation, le primat de l'économie de marché auquel les musées doivent se plier d'une certaine manière, sans pour autant perdre leur âme, c'est un problème extrêmement difficile. Alors, les partis pris de Jean Clerc sont, je le répète, tout à fait contestable, mais son immense culture, la beauté de son style, la passion qu'il met font que ce livre oblige à réfléchir sur ce thème des musées, et donc avec toutes les précautions d'usage et en laissant à chacun la liberté de son opinion, je ne peux que recommander la lecture de « Malaise dans les musées » de Jean Clerc.